Il est 13h sur France Inter. Le journal de la mi-journée avec Jérôme Val. Bonjour.
Bonjour à tous. L'impasse de nouveau pour l'Aquarius, le navire de SOS Méditerranée avec à son bord 141 personnes ne sait toujours pas où accoster. Et comme avant l'été, aucun pays ne veut prendre la responsabilité de les accueillir. Il faut que cette situation cesse, nous dira la présidente de l'ONG. Nous irons aussi à la rencontre de l'un de ces migrants accueillis en France le mois dernier. Il a trouvé un havre de paix en Isère. La chute en bourse pour Bayer, le groupe propriétaire de Monsanto condamné la semaine dernière aux États-Unis, a vu son action dévisser ce matin à Francfort de près de 11%. La livre turque, elle aussi dans la tourmente. La Banque centrale de Turquie a pris ce matin des mesures pour enrayer la dégringolade de sa monnaie sur fond de tension avec Washington. Nous en détaillerons les conséquences avec notre invité Jean Marcoux, professeur à Sciences Po. Plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages, ça se calme dans le ciel. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour.
Mais un début de semaine mitigé avec des températures fraîches pour la saison.
Effectivement, les maximales cet après-midi seront très souvent en dessous des moyennes de saison et comprises entre 21 et 26 degrés. Elles seront plus chaudes près de la Grande Bleue, comptées entre 29 et 32 degrés. Côté ciel, prévoyez des averses orageuses en allant vers l'est. Ils seront localement violents ces orages, près de la basse vallée du Rhône et jusqu'au Deux-Savoie et partout ailleurs, un ciel de traîne avec des averses.
Et on vous retrouve à la fin de ce journal. Au programme également, les acteurs de la culture qui se mobilisent pour demander la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont l'état de santé se dégrade, et un bilan en demi-teinte pour les Français au championnat d'Europe d'athlétisme.
France Inter.
Le scénario se répète pour l'Aquarius en Méditerranée. Comme au mois de juin, le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée, avec à son bord 141 personnes secourues vendredi au large de la Libye, est en quête d'un port où les débarquer en toute sécurité. Un tiers sont des femmes, dont certaines sont enceintes. Pour l'instant, le navire se trouve dans les eaux internationales entre Malte et l'île italienne de Lampedusa, mais Malte a officiellement refusé d'accueillir le bateau. L'Italie a aussi décliné par la voix de son ministre de l'Intérieur. C'est maintenant à l'Europe de prendre ses responsabilités, estime Sophie Beau, la présidente de SOS Méditerranée.
En juin, on a été pris de court par la fermeture des ports italiens, soudaine, le 10 juin dernier. Personne ne s'y attendait. Mais là, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde connaît les blocages. Là, on atteint complètement les limites du modèle qui a été mis en place par les autorités européennes, qui consistait à se reposer complètement sur les autorités libyennes, qui eux-mêmes reconnaissent et nous disent et nous confirment par écrit à plusieurs reprises qu'ils ne peuvent pas désigner de port sûr pour l'Aquarius et nous demandent de nous en remettre à d'autres autorités. On a donc fait appel aux Italiens et aux Maltais, qui sont logiquement les deux pays les plus proches concernés par la possibilité de coordonner les secours et débarquer les personnes. Et nous avons eu un refus à la fois de Malte et aussi de l'Italie. Donc maintenant, nous en appelons à l'ensemble des gouvernements européens pour prendre leurs responsabilités, trouver une solution, désigner un port sûr pour l'Aquarius. Mais il s'agit d'une prérogative des États et non pas du capitaine de l'Aquarius qui, lui, attend les instructions.
On s'en souvient, après la première crise, avant l'été, les tensions diplomatiques pour l'accueil des migrants secourus en mer, la France avait finalement accepté d'accueillir 130 personnes, des personnes sélectionnées par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et parmi elles, 52 migrants qui avaient accosté à Malte à bord du Lifeline. Ils avaient atterri à l'aéroport de Roissy avant d'être répartis dans différents centres d'accueil. C'est le cas de Salah, un Érythréen de 24 ans. Il vit aujourd'hui en Isère. Delphine Evenou, vous êtes allée à sa rencontre.
C'est sa première chambre pour lui tout seul, avec une clé. Quelques mètres carrés, des murs blancs, un mobilier basique. Depuis trois semaines, Salah y a posé le peu d'affaires qu'il possède.
Bon, ces jours-ci, il fait très chaud, on étouffe. Mais je suis tranquille ici.
Ça va ?
Dans trois mois, quand il faudra partir, je vais demander un logement à Lyon.
Au même étage que la chambre de Salah, un couloir mène vers des bureaux où les pensionnaires passent des entretiens, lancent leurs démarches administratives avec les travailleurs sociaux. Laetitia va s'occuper de l'avenir de Salah.
On va devoir déjà se soucier de ses ressources financières, entamer dès maintenant les démarches de recherche de logement. On va aborder la question de l'emploi, éventuellement de la formation aussi. Et il y aura toutes les démarches administratives auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, formations auprès de l'OFPRA. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à mener pendant ces 3 mois.
Le coup d'envoi, ce sera fin août, quand Salah aura le récépissé qui entérine son statut de réfugié. En attendant le sésame sur papier, le jeune homme prend le temps de se poser après un voyage de 2 ans qui l'aura mené de la dictature érythréenne à l'Europe, en passant par la torture en Libye. C'est sa reconstruction qui commence.
Et l'histoire de la nouvelle vie de Salah est à retrouver sur franceinter.fr. C'est la première conséquence pour le groupe Monsanto après sa condamnation la semaine dernière aux États-Unis. Son propriétaire allemand Bayer a perdu près de 11% ce matin à la bourse de Francfort, recul historique depuis 2 ans pour la firme pharmaceutique. Le procès perdu par Monsanto en raison du caractère probablement cancérigène des produits au glyphosate, dont le Roundup, pourrait donc coûter cher au groupe. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Du service économie de France Inter. Alors Bayer a racheté Monsanto il y a 2 mois à peine et voici une sérieuse zone de turbulence à prévoir pour l'entreprise.
Ouais, les investisseurs s'inquiètent clairement, et si cette condamnation de ce jardinier Dwayne Johnson n'était que la première d'une longue série, la journaliste Marie-Monique Robin, auteure du documentaire Le Monde selon Monsanto, était notre invitée ce matin sur Inter. Pour elle, les ennuis de Bayer n'en sont qu'à leur début.
Actuellement, il y a à peu près 5000 agriculteurs américains qui ont porté plainte contre Monsanto. Donc Dwayne Johnson est le premier d'une longue liste. Là, le jury populaire vient de lui accorder 270 millions de dollars de mémoire. Alors vous imaginez, vous multipliez par 5000.
Au-delà de ça, Bayer a commis une erreur fondamentale que sanctionnent aussi les marchés. Pour Florian Silnicki, expert en communication de crise, celle d'erreur de ne pas avoir tiré les leçons de sa condamnation en s'empressant de faire appel.
Lorsque vous faites appel, eh bien, vous incarnez là une mauvaise foi absolue. C'est une stratégie qui n'est pas compatible avec les attentes de l'opinion publique internationale, avec les attentes des marchés, et on voit à quel point ils sanctionnent Bayer aujourd'hui, avec la conception juste, normale et basique de la responsabilité sociale et environnementale qui est attendue à l'égard d'une multinationale.
Bref, tout ça fait que le titre Davis, moins de 10% aujourd'hui à Francfort, vous l'avez dit, est pas sûr que ça s'arrête là.
Merci Maxime Dès pour France Inter. Le pari est loin d'être gagné pour la Turquie. Les mesures annoncées pour tenter de stabiliser sa monnaie n'ont pas suffi. Ce matin, la livre turque a même atteint son plus bas historique face au dollar. Depuis plusieurs mois, la monnaie du pays connaît une chute brutale, moins 40% par rapport au billet vert, sur fond de politique économique du président Erdogan contestée et de tensions avec les États-Unis. D'où la réaction de la Banque centrale ce matin, mais visiblement, Anand Lauer, une réaction encore trop timide.
La livre souffle un peu ce lundi midi, ce qui signifie qu'elle reste très faible, mais stable, au lieu de poursuivre son effondrement des derniers jours face au dollar américain. La monnaie turque doit ce répit aux annonces de la Banque centrale, restée silencieuse jusqu'ici, ce qui avait eu pour effet d'accélérer sa chute. L'institution monétaire, dont l'indépendance est mise à mal ces derniers mois par le président Recep Tayyip Erdogan, a notamment annoncé qu'elle fournirait toutes les liquidités nécessaires aux banques. Le pouvoir veut à tout prix éloigner le risque d'une défaillance bancaire, accompagnée de faillites d'entreprises, lesquelles sont, en Turquie, très endettées en dollars. De son côté, le ministre des Finances, Berat Albayrak, gendre de Tayyip Erdogan, affirme dans un entretien au quotidien Hurriyet que la Turquie va mettre en œuvre un plan d'action économique dont il doit encore dévoiler les grandes lignes. Autant d'annonces qui visent donc à rassurer, alors que le président turc a au contraire multiplié ces derniers jours les déclarations de défiance vis-à-vis des marchés et de Washington, contribuant à l'effondrement de la livre. Istanbul, Anand Lauer, France Inter.
Alors pour comprendre cette crise économique, monétaire et peut-être bancaire, l'invité du 13h d'Inter est Jean-Marc Houx. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie. Alors pour expliquer l'instabilité de sa monnaie, Recep Tayyip Erdogan a eu cette déclaration choc. Ce serait la conséquence d'un complot politique américain. On peut dire que c'est une rhétorique assez classique dans la bouche du président turc.
Oui, c'est une rhétorique qui est assez classique, et je pense aussi que c'est une manière d'essayer de se sortir de cette mauvaise situation en surfant sur effectivement un anti-américanisme et en surfant sur un nationalisme qui souvent lui a rapporté sur le plan électoral. Mais sur le plan économique, c'est une stratégie qui risque de ne pas être très payante. On le voit avec cette chute impressionnante de la livre turque, d'autant plus que Recep Tayyip Erdogan a pendant longtemps entravé l'action de la Banque centrale en s'opposant à la hausse des taux d'intérêt, en reprenant en main le système économique, notamment au travers des dernières élections anticipées qui ont permis la mise en œuvre pleine des réformes constitutionnelles qu'il a fait adopter. Donc tout ça n'est pas très bon du point de vue économique et le place dans une situation difficile qui se double d'une situation diplomatique conflictuelle effectivement avec les États-Unis.
Alors justement, Jean-Marc Roux, la Turquie est-elle prête à sacrifier ses relations avec Washington alors que la Turquie est membre de l'OTAN et que les États-Unis disposent de bases militaires dans le pays ?
Je pense que la Turquie a fait le pari dans cette affaire que effectivement les États-Unis la respecteraient en tant que partenaire de l'OTAN, en tant que pays stratégiquement important au Moyen-Orient. Il faut voir aussi qu'il y a derrière cette affaire de plus en plus au cours des dernières heures. La montée en force d'un conflit direct entre Erdogan et Donald Trump. Ces deux hommes ont eu de bonnes relations lorsqu'ils se sont rencontrés. Effectivement, on avait l'impression d'une certaine convergence idéologique par certains côtés. Mais d'un autre côté, c'est le même genre de caractère et d'obstination. En plus, Trump est soutenu par les milieux évangélistes et il ne peut pas reculer. Et Erdogan a placé la barre également très haut en disant qu'une nation comme la Turquie ne reculerait pas. Bon, vous savez qu'un des éléments de ce conflit, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, c'est le maintien en détention, en tout cas en détention à domicile du pasteur Brunson. Et Erdogan disait effectivement il y a quelques jours que les États-Unis ne sacrifieraient pas leur partenaire stratégique à un pasteur. Mais je dirais que cette affaire a pris une dimension très symbolique politiquement pour l'un et l'autre des deux hommes et il risque d'être difficile de faire machine arrière.
Rapidement, Jean-Marc Roux, pour revenir à l'aspect, on va dire, économique, le président Erdogan a bâti une partie de son ascension politique sur la réussite économique. Est-ce que c'est un premier échec pour lui, cette crise monétaire ?
Oui, enfin, cette crise monétaire témoigne aussi d'un certain essoufflement de l'économie turque depuis deux ans que l'on a bien vu. Alors il y a eu effectivement une croissance qui a été dopée par des grands travaux, mais malgré tout, l'économie turque n'est plus ce qu'elle était effectivement depuis deux ans. Alors depuis les élections anticipées de juin dernier, effectivement, le gendre de Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, a parlé d'une nouvelle politique économique. En tout cas, ça démarre très mal et cette faiblesse monétaire, même si le pays continue à avoir un certain nombre d'atouts, cette faiblesse monétaire est quand même très dangereuse au moment où le régime prétend se lancer dans une nouvelle ère. Je pense notamment que tous ces grands travaux qui ont été prévus, ce programme nucléaire ambitieux également qu'il va falloir financer alors même que la Turquie affiche un déficit qui est important, tout ça risque de poser de graves problèmes à la Turquie dans les prochains mois.
Merci beaucoup pour cet éclairage ce midi sur France Inter. Jean-Marc Roux, vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie. Une nouvelle menace de grève dans le ciel d'Air France à la rentrée. Un syndicat de pilotes met la pression sur le futur PDG de la compagnie qu'on ne connaît pas encore. Air France a décidé, pour attirer des candidats, de tripler la rémunération de son futur patron. Pas vraiment du goût des syndicats qui fixent leurs exigences. Quel qu'il soit, le nouveau PDG devra reprendre les négociations sur les salaires, négociations qui ont échoué. Grégoire Aplincourt est le président du SPAF, le syndicat des pilotes d'Air France, qui lui n'appelle pas encore à la grève.
Quand le nouveau PDG va arriver, il va arriver avec, dans l'entreprise et à tous les niveaux, un conflit social plus important qu'il n'y en a jamais eu Air France. Évidemment qu'il n'aura pas d'autre solution que de résoudre le conflit social dans sa globalité. Il va falloir discuter, oui, des conditions de travail des pilotes. Bah oui, parce que dans le monde aujourd'hui, le contrat des pilotes d'Air France, c'est pas ce que ça devrait être aujourd'hui. Dans les grandes compagnies aériennes mondiales, on n'est pas du tout à notre niveau. On doit se mettre autour d'une table, discuter et trouver une solution. Alors, est-ce que son salaire triplé... Moi, si c'est un salaire triplé, mais qu'il fait gagner des milliards d'euros à Air France,
qu'il a une bonne stratégie, qu'il repositionne Air France en leader mondial, etc. Pourquoi pas qu'il tient tête au gouvernement, qu'il fait ce qu'il faut, qu'il arrive à prendre en compte que, bah oui, il y a des soucis de compétitivité Air France, qu'il faut les résoudre autrement que simplement en tapant sur les salariés. Bah, franchement, s'il y a un PDG qui arrive à faire ça, bah, moi, je dis qu'il aura mérité son salaire. Et puis, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, il faut considérer aussi que les pilotes, s'ils font leur travail, ils méritent aussi leur salaire.
Et des propos recueillis par Manuel Ruffez. Les dégâts commis lors des blocages des universités au printemps ont coûté plus cher que prévu. 7 millions d'euros contre les 5 initialement annoncés. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui le dit ce matin. La mobilisation avait perturbé plusieurs dizaines de sites dans toute la France. 4 universités avaient été bloquées, dont Tolbiac et Nanterre. Dernier site à être évacué à la mi-juin. Les étudiants protestaient contre la nouvelle loi modifiant les modalités d'accès aux filières non sélectives. Voilà qui va ternir un peu plus l'image de Donald Trump, déjà bien écorné. Un nouveau livre va paraître demain aux États-Unis. Son auteur, une ancienne candidate de télé-réalité dans une émission présentée par Trump, devenue conseillère du président américain pendant un an. Omarosa Manigault, c'est son nom, a été écartée de la Maison-Blanche au début de l'année. Et la riposte est cinglante. L'ancienne conseillère décrit dans son livre un président raciste. La correspondance aux États-Unis de Grégory Phillips.
This Sunday, Omarosa.
Omarosa Manigault aura passé une année à la Maison-Blanche avant d'en être brutalement écartée. Donc dans ce livre, à paraître mardi, elle décrit un Trump misogyne, intolérant et surtout raciste. L'ex-conseillère africaine-américaine affirme avoir entendu un enregistrement dans lequel le président utilise le mot « nègre » à plusieurs reprises.
It was confirmed.
Ça a confirmé ce que je redoutais le plus quand Donald Trump parle comme de cette manière sur cet enregistrement. Ça ne fait que confirmer qu'il est vraiment raciste.
Dans Meet the Press, Omarosa, comme on l'appelle ici depuis qu'elle s'est faite connaître dans l'émission The Apprentice, Omarosa donc raconte aussi le jour de son licenciement. Elle a enregistré à son insu le chef de cabinet John Kelly, le chief of staff et la conseillère se trouvent dans la salle de crise de la Maison Blanche et voici ce que Kelly lui dit.
C'est important que vous compreniez que si on organise un départ à l'amiable, vous pourrez considérer cette année passée à la Maison-Blanche comme une année de service à la nation. Et vous pourrez partir sans que votre réputation ne soit abîmée dans le futur.
Le livre sort mardi. Donald Trump a simplement qualifié Omarosa de crapule et la Maison-Blanche a parlé d'un tissu de mensonges de la part d'une ex-employée aigrie. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Le monde de la culture se mobilise pour demander la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, détenu en Russie et en grève de la faim depuis 3 mois. La semaine dernière, les nouvelles sur son état de santé n'étaient pas bonnes. Il a perdu 30 kilos et souffre de problèmes cardiaques. Des personnalités publient aujourd'hui dans le journal Le Monde une tribune. Ne pas agir, ce serait le laisser mourir. Ce serait tolérer qu'on peut être tué pour ses idées, ses opinions, ses prises de position, écrivent ses acteurs et réalisateurs, mais aussi l'ami ministre de la Culture, Françoise Nyssen.
Il y a urgence, mon devoir est la défense de la liberté d'expression, la liberté artistique, parce que c'est pas sur des raisons et des faits avérés. Il a été emprisonné au risque de ce qu'il pouvait dire. Cet homme réclame le droit à la liberté d'expression et meurt pour cela. Un homme est en train de mourir dans une prison parce que c'est un artiste et il dit des choses qui dérangent. Or, on a besoin des artistes, on a besoin dans le débat démocratique de leurs idées, de leur éclairage, même s'ils dérangent. Et on sent que cet homme est déterminé à faire valoir le droit de la liberté d'expression et de la liberté. Et c'est pour ça qu'une mobilisation politique, une solution politique, humanitaire, doit être trouvée de façon tout à fait urgente.
Que peut faire Emmanuel Macron, qui a déjà fait des propositions à Vladimir Poutine?
Il a écrit, il a téléphoné, il a demandé que des mesures humanitaires soient prises et pas de retour. Et c'est pour ça qu'il était important de faire une tribune aujourd'hui avec des cinéastes qui ont une voix qui porte et qui disent libérer Sentsov.
Et parmi ces cinéastes signataires, on peut citer Costa Gavras, Ken Loach, Jacques Audiard ou Jean-Luc Godard. Françoise Nyssen répondait aux questions d'Agathe Mahué. 10 médailles, dont 3 en or. La France termine les championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin sur un bilan en deçà des objectifs fixés par la fédération dans une compétition très relevée et très spectaculaire. À l'image du concours de la perche hier soir, Renaud Lavilloni détrôné par la jeunesse. Le Suédois de 18 ans Armand Duplantis, vainqueur avec une barre à 6,05 m. Le Français termine en bronze. Mais on est loin donc des 15 médailles que le camp tricolore visait. Il y a eu certes les forfaits, Christophe Lemaître et Johan Diniz, les contre-performances, Kevin Mayer dans dans le décathlon. Mais pour le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, tout n'est pas à jeter dans ces championnats d'Europe.
C'est vrai que aujourd'hui, eh bien, il manque au niveau comptable quelques médailles, mais on peut quand même être satisfait de ce bilan quand on regarde le comportement à la fois collectif de l'équipe de France et de nos jeunes. On avait fait le pari d'amener une nouvelle génération sur ces championnats d'Europe afin qu'elle apprenne pour les futures échéances qui vont venir bientôt. Et ces jeunes-là nous ont pas déçus. Beaucoup d'entre eux ont amélioré leur record personnel. Donc il y a aussi, malgré le manque de médailles qu'on avait annoncé, il y a aussi des satisfactions.
Les chiens ne font pas des chats, ça vaut aussi en tennis. Ce week-end, le fils de Björn Borg, la légende Léo Borg, est devenu champion de Suède des moins de 16 ans. Un parcours tout tracé pour celui qui a des similitudes physiques saisissantes avec son père, même silhouette longiligne, longs cheveux blonds et yeux bleus. Horizon dégagé donc pour Borg Junior. Un peu moins chez nous, les prévisions météo de Jean-Pierre Amou.
Cet après-midi, nous allons retrouver un temps instable et orageux sur une bonne moitié est du pays ainsi qu'en Corse. Attention, ces orages seront localement forts, de la basse vallée du Rhône jusqu'aux Deux-Savoies, avec des pluies soutenues, de la grêle et de fortes rafales de vent. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre courtes éclaircies et cumulus, porteurs d'averses. Vous profiterez tout de même d'assez belles éclaircies le long des côtes de la Manche et de la Bretagne sud à la côte charentaise. Côté température, les maximales sont en baisse et bien en dessous des moyennes de saison. Elles seront généralement entre 21 et 25 degrés, comptez 29 à 32 autour de la Méditerranée. Demain, les éclaircies reprendront le dessus, à noter un peu plus de nébulosité vers la Bretagne et encore une activité orageuse vers la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes.